21h passées de quelques minutes, bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de Wagon Livre sur Radion. Pour le 271e numéro de votre rendez-vous littéraire, nous vous proposons aujourd'hui un entretien enregistré au château du Clos de Vougeot le 24 septembre dernier avec Jean-Paul Delfino pour évoquer son dernier roman intitulé « Les pêcheurs d'étoiles » paru l'été dernier aux éditions Le Passage. Jean-Paul Delfino est écrivain et scénariste, il est notamment l'auteur d'une suite brésilienne, une histoire du Brésil en 9 romans. Avec ce dernier roman, Les pêcheurs d'étoiles, nous sommes sur les traces de deux artistes de légende, le musicien Eric Satie et le poète Blaise Cendrars, dans le tourbillon du Paris des années folles, très précisément en 1925. Alors, Jean-Paul Delfino, vous avez écrit une fiction, mais les deux hommes, Satie, Cendrars, se sont-ils réellement connus?
C'est à la fois une fiction, parce que c'est du roman, mais les deux hommes se sont vraiment connus. En revanche, qu'ils aient passé toute une nuit à dos de girafe dans les rues de Paris et à essayer d'attraper Cocteau pour lui mettre des gifles, c'est quand même de la licence littéraire. Mais je suis parti d'un fait réel qui est le suivant. En 1924, Blaise Cendrars prend le bateau, le Formose, qui l'amène pour la première fois au Brésil, et subitement, sur le bateau, il se souvient que Satie lui a demandé de lui écrire l'argument d'un opéra-ballet. Donc il s'en acquitte en quelques jours, et il lui renvoie ça par un procédé qu'on appelait à l'époque la lettre océane. C'est absolument merveilleux. Et comme il n'y avait pas Internet, que le portable n'existait pas, et le téléphone était quand même assez balbutiant... Quelques mois se passent, Cendrars revient à Paris, un soir il va troquer au bastringue du chien qui fume, et tout d'un coup Satie lui tombe dessus à bras raccourcis en lui disant « Et l'argument de mon opéra ballet, tu me l'avais promis ?» Cendrars répond « Oui, je l'ai écrit, je l'ai envoyé par lettre océan. » Et en fait, en discutant, ils se rendent compte que c'est Cocteau qui a intercepté l'argument, qu'il l'a fait sien, et qu'il l'a donné à Jean Borlain des ballets suédois. Donc c'est une grosse colère qui commence à exploser, et les deux hommes partent. C'est une unité de lieu, puisque tout se passe à Paris, une unité de temps, parce que tout se passe en une seule nuit, et ils vont visiter quelques endroits lourds de sens de Paris, que sont la Closerie des Lilas, le cimetière du Père Lachaise, l'Opéra Garnier, la banlieue rouge, un camp de gitans romanos, et donc ils vont passer leur nuit à chercher Cocteau et à chercher l'amour, parce que Satie, pendant 32 ans, est tombé amoureux d'une femme, il en était fou d'amour.
Biki.
À tel point, Biki, Suzanne Valadon, qui à l'époque était une prostituée et qui ensuite est devenue peintre et est devenue la mère de
Utrillo. Maurice Utrillo.
Exactement, hein. Et donc Satie, l'histoire est merveilleuse, parce que Satie, qui était un fou, mais vraiment c'était quelqu'un de très très étonnant, et il couche avec Suzanne Valadon. Le lendemain matin, il a une révélation, Dieu lui a parlé, il lui donne le surnom de Biki à Suzanne Valadon. Dieu lui demande de lui faire un baptême dans les eaux de la Seine. On peut imaginer ce qu'étaient les eaux de la Seine déjà à cette époque. Et donc il la demande en mariage immédiatement, et Suzanne Valadon lui dit en guise de boutade, va demander à ma mère et tu verras bien. Donc avec gambas frais, bouquet de fleurs d'oranger, voilà notre Satie qui va voir la mère de Suzanne Valadon, qui demande la main de sa fille, et la mère, trop heureuse de se débarrasser de sa fille, qui était quand même un personnage assez pétulant, on va dire, lui accorde la main. Donc il revient chez lui, fou de joie, fou d'espoir, et là Suzanne Valadon lui dit, mais tu as rêvé, je plaisantais, je ne me marierai jamais avec toi. Et il va passer 32 ans à ne plus coucher avec aucune femme, donc ça va être un amour exclusif, et à tourner autour de Suzanne Valadon sans jamais oser l'approcher.
Donc c'est la quête de cette femme un peu fantôme dans un Paris nocturne.
Surréaliste, oui.
Surréaliste, avec il faut le dire, l'illustration d'une grande amitié, en tout cas dans le roman, entre Sandrars qui apparaît tout en puissance, quand bien même il a un bras en moins, il y a cette puissance du regard, hein, c'est l'homme aux yeux lavés de bleu, ou alors il a un regard de serpent hypnotique, et puis Satie, que Sandrars méprise un peu en le féminisant, en l'appelant un peu ma vieille, qui fait un peu vieille folle, décati, homme lâche à la fois, et très drôle aussi dans ses lâchetés et dans ses craintes, surtout quand il a en face de lui des colosses russes blancs ou autres.
Oui, alors l'expression ma vieille, c'est ça n'est absolument pas une, enfin à l'époque, c'est ça n'avait rien de féminin, on s'appelait ma vieille comme on s'appelle mon vieux aujourd'hui. Et en fait, ce qui est étonnant, ce qui m'a séduit chez ces deux artistes, c'est que ils sont absolument hors de toute coterie germanopratine, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne veulent pas rentrer dans une chapelle, quelle qu'elle soit, ils ne veulent rien devoir à personne, et quand ils se rencontrent, le miracle est le suivant, c'est que Sandrars va sortir aux éditions Grasset l'or qui va faire sa fortune et sa renommée, mais pour l'instant il est complètement sans le sou, et Satie, lui, est déjà joué à San Paolo, il est joué à Tokyo, il est joué aux USA, il est joué partout, sauf en France, et donc il habite, lui, à Arcueil-Cachan avec celle qu'il appelle la petite fille aux yeux verts, qui est la misère, il est vraiment mort miséreux, mais c'était vraiment impressionnant, et d'ailleurs pendant 32 ans, il n'a reçu personne chez lui, personne n'a jamais mis les pieds chez Eric Satie, et ces deux hommes vont vivre une histoire d'amitié, je dirais presque une histoire d'amour, qui n'a rien d'homosexuel, mais une histoire d'homme, c'est entre la traversée de Paris, voilà, c'est peut-être ça, c'est un peu, il y a du Bourville chez Satie et du Sandrars chez Gabin, quoi, et ils vont s'élever un petit peu contre tout ce qui les gêne dans la vie, et l'un des thèmes fondamentaux, outre l'amour et l'écriture et la musique, ça va être le voyage. Parce que d'un côté, on a un immense voyageur qui est Sandrars, qui a raconté bien plus de voyages que ce qu'il en a fait, d'ailleurs, c'était un menteur extraordinaire. Et de l'autre côté, on a Satie qui, lui, n'a jamais fait de toute sa vie que Arcueil-Cachan-Paris, Paris-Arcueil-Cachan à pied, ce qui représente à peu près 40 kilomètres, ce qui n'est pas rien. Et en fait, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est quand ils se retrouvent, après avoir mis un petit peu le feu à la closerie des Lilas, ils se retrouvent sur un pont de Paris et Satie se lamente en disant « Mais vous avez beaucoup voyagé, parce que Satie vous voit Sandrars tutoie Satie. Moi, je n'ai jamais quitté Arcueil-Cachan et Paris, et donc comme il le voit désespéré, Sandrars lui dit « Mais si pendant 37 ans tu as fait Arcueil-Paris, Paris-Arcueil à pied, ça doit bien faire. » Il réfléchit, il lui dit « Mais toi, tu as fait le voyage de la Terre à la Lune à pied, donc tu as beaucoup plus voyagé que moi. » Et donc c'est par ces petites touches qu'on arrive à bâtir cette histoire d'amitié, cette histoire d'amour entre les deux hommes. Et il y a une anecdote que j'adore, qui campe parfaitement, à mon avis, le personnage de Satie, c'est justement sur ce pont. Il rétorque à Sandrars, il lui dit « Mais moi, j'ai failli voyager, Picasso m'a invité pour aller à Rome, jouer devant toute la bourgeoisie romaine. » Et Sandrars lui dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Et Satie répond « Picasso m'avait envoyé 3000 francs et j'étais prêt à partir, mais je voulais apparaître sous mon meilleur jour. Donc, j'ai dépensé en fait tout l'argent pour acheter des mâles cabines et des costumes, et j'ai oublié qu'il fallait que je garde de l'argent pour les billets, donc il n'est jamais allé à Rome. »
Alors, ce qui est amusant, autant Sandrars a effectivement ce bras unique, hein, puisqu'il en a perdu un lors de la Première Guerre mondiale, autant finalement Satie, une espèce de prolongation de son bras avec ce parapluie. D'ailleurs, les personnages sont très très bien représentés sur la couverture de votre roman, Les Pêcheurs d'étoiles, où on voit le parapluie de Satie qui est accroché sur un filin, et les deux amis qui sont comme ça en apesanteur et qui pêchent des étoiles, les pêcheurs d'étoiles. Ce parapluie est assez symbolique on a l'impression que c'est un homme justement qui ouvre son parapluie pour se protéger contre plein de choses.
C'est ça,
la misère, le manque de reconnaissance aussi parfois.
Ouais, c'était un gentleman, et en même temps c'est la prolongation du bras, comme vous dites, et il était tellement gentleman que par exemple il était reçu très régulièrement chez des comtes et des comtesses où il jouait du piano, et Il ne se faisait jamais raccompagner en voiture par le chauffeur de la maison parce qu'il n'avait même pas une petite pièce à donner au chauffeur une fois qu'il le déposait devant chez lui. Donc Satie, c'est ça, c'est quelqu'un, quand on a ouvert pour la première fois son appartement, on a découvert 7 parapluies tous identiques, 7 chapeaux tous identiques, une centaine de cols en celluloïde, 7 chemises tous identiques, 7 costumes tous identiques. C'était quelqu'un qui, je pense aujourd'hui, serait dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était vraiment, vraiment fou, mais c'était aussi un véritable génie. Moi, si j'ai écrit sur ces deux personnages, c'est parce qu'ils sont symboliques aussi de tout ce que la France n'est plus aujourd'hui. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que sur le plan littéraire, sur le plan musical, on n'a jamais été aussi pauvre en France. Et dans les années 20, c'est vrai que ça a explosé dans tous les domaines. Dans le bouquet, on croise Chagall, Modigliani, donc Sandrart, Satie, Cocteau, Abel Gance, Charlie Chaplin, le jazz qui débute.
Apollinaire,
le cinéma
aussi,
Apollinaire,
qui est mort
du
déjà,
moins son tombeau, mais oui. Et donc c'est un petit peu cette France que moi personnellement je regrette, et c'est cette France qui m'a donné l'envie d'écrire. Celle d'aujourd'hui me donne envie plus d'être journaliste que d'être romancier.
Donc un Jean-Paul Delfino qui a écrit cette histoire d'amitié entre un musicien et un écrivain poète. Un Jean-Paul Delfino qui s'inscrit dans la nostalgie, alors.
Non, ça n'est pas parce qu'on admire ce qui a été fait que l'on vit obligatoirement dans le passé. D'ailleurs, je suis presque aujourd'hui plus brésilien que français. Et le Brésil est, comme disait Stéphane Zweig, la terre d'avenir. Donc je ne vis pas dans le passé. Mais je voulais aussi, ça n'était pas le moteur principal de l'écriture, mais rappeler au lecteur ce que la France a été. Parce qu'on ne s'en rend plus compte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une aberration. Quand on voit le niveau culturel des Français, je suis désolé, ça n'est pas de la critique gratuite. Le niveau baisse continuellement et c'est très dangereux compte tenu de la situation de crise qu'on traverse. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a de graves crises dans un pays, c'est immédiatement la culture qui ferme les portes. Ça, on voit ce qui se passe au Brésil avec le coup d'État institutionnel qui a mis à bas Dilma Rousseff. La première décision qui a été prise, ça a été de fermer le ministère de la Culture. Donc je crois qu'en France, on peut se contenter de Star Academy, on peut se contenter de la production cinématographique actuelle française, on peut se contenter de tout ça, mais je pense qu'il faut le faire en ayant une totale connaissance de ce que la France a été avant.
Il faut donc des écrivains qui nous invitent à pêcher les étoiles, donc.
Si c'est possible.
À nous faire rêver et réfléchir.
Je ne suis pas le seul, je pense, à écrire sur cette période. Et je crois que l'écriture sert à énormément de choses. Alain Souchon, quand on lui disait « Pourquoi écrivez-vous ?», il répondait « Pour plaire aux femmes ». Mais il voulait dire par là sa mère, sa sœur, sa tante, sa cousine et les autres femmes, bien évidemment. Mais on écrit aussi quand on est révolté. C'est le cas de « Dans l'ombre du Condor » que j'ai écrit... avec pour toile de fond le passage de la démocratie et la dictature au Brésil. On peut écrire pour faire des grandes lettres d'amour. C'est le cas de Corcovado où je dresse mon premier grand roman sur le Brésil et une ode à l'amour de cette ville. Mais on peut écrire aussi pour alerter. Et je pense que ce livre, qui n'est pas un pamphlet politique, au contraire, c'est juste une déambulation, comme vous avez dit, qui est poétique, qui est humoristique, qui est loufoque, qui est surréaliste, mais qui prouve qu'on peut vivre autrement et continuer à rêver. Et je pense que les gens qui ont perdu leur rêve, même leur rêve d'enfant, on a tous rêvé, je ne sais pas à quoi vous rêviez, vous, quand vous étiez enfant, mais on a tous rêvé à un destin exceptionnel, extraordinaire, comme Robin Williams le dit dans Le Cercle des Poètes Disparus, au début du film. Et il me semble que quand on a perdu ce rêve d'enfant, on a arrêté de pêcher des étoiles. Et ça, c'est peut-être dommage.
Nous allons momentanément interrompre notre entretien pour marquer un premier intermède musical. Nous sommes ce soir avec Jean-Paul Delfino pour son roman « Les pêcheurs d'étoiles » disponible aux éditions Le Passage. Je vous rappelle que l'émission que vous suivez a été enregistrée lors de la 9e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. C'était le 24 septembre dernier. Nous sommes, nous, ensemble jusqu'à 22h sur Radion. Place à la musique et je vous retrouve juste après.
Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat.
J'ai pas choisi d'être seul ici. Pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur? Un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici.
Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat.
J'ai pas choisi d'être seul ici. J'ai pas choisi, pourtant c'est ainsi. Va voir là-bas, j'y suis moi aussi. Pas choisi d'être une anomalie.
Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. Si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière ici-bas.
Même toi, même toi.
Si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière au combat.
Même toi, tout tourne autour de toi. Même moi, tout tourne autour de moi. Même toi, tout tourne autour de toi. Même toi, tout tourne autour de moi. Même moi, tout tourne autour de toi. Même moi, tout tourne autour de moi. Même toi, tout tourne autour de toi. Même toi, tout tourne autour de moi. Même moi.
Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. Si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière ici-bas.
Même toi,
si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière au combat.
Même toi
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
L'émission que vous suivez ce soir a été enregistrée le 24 septembre dernier lors de la 9e édition de Livre en Vigne, première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. C'est une fête organisée par Evelyne Philippe et qui se tient chaque dernier week-end du mois de septembre. Et le 24 septembre dernier, nous avons eu le plaisir de pouvoir nous entretenir avec Jean-Paul Delfino pour son dernier roman, Les Pêcheurs d'étoiles, disponible aux éditions Le Passage. À un moment dans votre roman, Jean-Paul Delfino, Éric Satie dit « Il faut bien gagner sa vie en attendant la gloire ».
Ah oui, parce que ça c'est aussi très étonnant. Les gens ont une vision des artistes, je ne parlerai que des romanciers parce que je connais un peu le sujet, mais ils imaginent souvent qu'on gagne énormément d'argent et qu'on est... Alors on a des honneurs, oui. Là par exemple je vais souvent faire au moins 2 ou 3 fois par an des tournées de conférences au Brésil où c'est une voiture avec chauffeur qui m'attend à l'aéroport, j'ai un hôtel 5 étoiles, c'est merveilleux, mais je n'ai pas assez d'argent pour donner au liftier dans l'ascenseur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans un décalage, je suis très très satie sur ce plan-là. Donc très régulièrement, je me fais copain avec tout le personnel de l'hôtel et je finis dans des fêtes qui ne se terminent plus sinon à 4h du matin dans des quartiers malfamés de Belém, de Rio, de São Paulo, de San Luis. Et je crois qu'on visite aussi un pays comme ça. Donc si les gens qui nous écoutent, si certains d'entre vous avaient des velléités d'écriture, si c'est pour gagner de l'argent ou pour passer uniquement dans la presse, abandonnez votre idée, faites autre chose, passez à la Star Academy, vous aurez plus de chances et moins de désillusions.
Jean-Paul Delfino, revenons à Sandrars. Alors Sandrars, un ancien de la Légion, mutilé
Il n'a qu'un seul bras, hein. L'autre, il l'a perdu lors de la Première Guerre mondiale. Il fume des crapulos. Et j'aimerais que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez. Sandrars a une sorte de remède miracle. C'est une fiole d'huile de Harlem. Qu'est-ce que c'est que cette huile de Harlem?
Alors ça, c'est l'interrogation la plus absolue. C'est un remède de grand-mère ou de belle-mère, comme on dirait aujourd'hui. Alors il en parle dans ses entretiens, les entretiens qu'il a donnés, si ma mémoire est bonne, en 1951. À Monsieur Manol pour la radio française, et il était persuadé qu'avec cette huile de Harlem, il était capable de guérir la blessure, la trépanation d'Apollinaire et surtout la grippe dont Apollinaire est mort. Et Apollinaire n'a jamais voulu la prendre, ce qui a toujours été le regret de Sandrars. Mais encore une fois, Sandrars était un merveilleux menteur, c'était un poète du quotidien, et il inventait beaucoup de choses. Donc l'huile de Harlem, si des auditeurs s'y connaissent en pharmacopée, qui téléphonent et qui nous donnent la recette.
Écoutez, mais, j'aimerais bien, Jean-Paul.
Ben moi aussi, oui. Mais...
parlons de Guillaume Apollinaire, puisque dans le roman, Sandrars tire Éric Satie, elle l'amène au cimetière du Père-Lachaise, je crois que ça tombe un 9 novembre, c'est-à-dire c'est la date anniversaire de la mort de Guillaume Apollinaire. Et Sandrars, parlant de la mort d'Apollinaire, dit à Satie, il est vraiment mort comme un con parmi des millions d'autres cons. C'est l'énonciation aussi de cette mort absurde d'un génie.
Oui, oui, puis c'est déjà la mort quelque chose de terriblement absurde. On est tous là pour en finir. Ça, c'est au moins, si on a une certitude sur cette terre, c'est que normalement, on doit tous finir dans un trou sous forme de cendres dispersées au vent. Mais il est mort comme des millions d'autres cons. Ça mêle à la fois, mais c'est moi qui me permets de faire parler Blaise Sandrars. Ça mêle à la fois les morts de la grippe espagnole, hein, qui est aujourd'hui une influenza, on en guérit sans aucun problème, hein, et en même temps les millions de morts de la guerre de 14. Donc l'absurdité de la vie qui peut se résoudre à une équation simple, c'est qu'après la vie arrive la mort. Si en plus l'homme y met du sien pour massacrer son semblable, c'est sûr que l'absurdité devient absolument insupportable.
Et Sandrars a assisté aux obsèques de Guillaume Apollinaire, et il y a à un moment, on est au moment où la France... Donc Apollinaire meurt en novembre, 9 novembre donc 1918, l'armistice est proclamé deux jours plus tard, et au moment où ont lieu les obsèques de Guillaume Apollinaire, ceux qui accompagnent le cercueil d'Apollinaire entendent la foule crier « À mort Guillaume, à mort Guillaume ». J'aimerais que vous nous expliquiez cette...
C'est un clin d'œil, un hasard de l'histoire. C'est que lorsque Guillaume Apollinaire est emporté au cimetière du Père Lachaise, l'armistice est signé, et donc Guillaume II de Prusse, qui était l'ennemi juré de tous les Français, donc est conspué à ce moment-là, sauf qu'Apollinaire a pour prénom Guillaume, et donc il faut s'imaginer un peu ce cercueil ballotté parmi une foule qui est à la fois d'une tristesse absolue et d'une joie débordante. Tristesse parce que l'un des plus grands poètes est décédé, et une joie débordante parce que ça n'est fini de la guerre. Et ce qui me plaît beaucoup dans ce petit clin d'œil que je me permets de faire, c'est un fait historique, c'est que Blaise Sandrars, avec Raymond et un troisième larron dont le nom m'échappe, un dessinateur, ça me reviendra peut-être, suivent le cercueil, mais de très loin. Ils le suivent par le chemin des écoliers, parce que c'est exactement pour moi la même chose que ce qui s'est passé pour Je suis Charlie. C'est-à-dire, du jour au lendemain, on a vu des millions de Français descendre dans les rues, alors que Charlie Hebdo se vendait à 10 000 exemplaires. Et là, c'est pareil. Les désespérés de la 25e heure, quand Apollinaire est décédé, sont tous là à se presser derrière le cercueil pour pouvoir dire j'y étais, je connaissais le grand homme. Mais il y a très peu de monde qui le connaissait. Donc Sandrars, qui se méfie toujours, comme je le dis, des chapelles, suit ça de très très loin. Et là, il y a encore, c'est une anecdote racontée par Sandrars, c'est racontée par lui, elle est merveilleuse, donc j'y crois. Je ne suis pas historien, je suis romancier. Et une fois que toutes les grandes pompes sont achevées, une fois que le cercueil est mis en terre, que toute la foule s'est dispersée, Sandrars arrive avec Raymond, et Raymond, sa compagne de l'époque, la mère de ses enfants, tout à coup défaillit, elle devient d'une blancheur cadavérique et elle tend le doigt en montrant la motte de terre sous laquelle repose Apollinaire. Hein. Et effectivement, d'après Sandrars, la motte dessinée avec une précision époustouflante, la tête d'Apollinaire, avec y compris son gros bandage de trépané sur le... Ça dessinait les yeux, ça dessinait la bouche, ça dessinait le pansement, ça dessinait tout. Donc c'est comme si Apollinaire, qui a quand même beaucoup profité de Sandrars, ce qu'il a utilisé comme un nègre, qui n'était pas un personnage complètement angélique, Apollinaire. C'est comme s'il avait voulu faire une dernière fois la nique à son nègre qui s'appelait Blaise Sandrars.
Mais c'est tout de même Sandrars qui a trouvé le titre Zone, donc titre d'un des poèmes les plus célèbres de Guillaume Apollinaire.
Il ne l'a pas trouvé pour Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire l'a piqué un texte de Sandrars. La différence est quand même intéressante. Et là encore, je laisse aux spécialistes et aux exégèses d'Apollinaire le soin de démêler le vrai du faux. Mais la version de Sandrars, c'est que Apollinaire était quand même quelqu'un qui le payait une misère pour recopier des romans de chevalerie à la Bibliothèque nationale et qui en même temps piquait pas mal d'idées donc aux gens qui le fréquentaient. Et donc il agissait un petit peu avec une espèce, un côté mandarin qu'on peut trouver dans la médecine. C'était lui le grand maître et de temps en temps il donnait quelques oboles aux gens qui constituaient sa cour et ça, Sandrars lui en a beaucoup voulu parce que il a pas compris qu'Apollinaire allait tant aimer. Je pense que c'était véridique, avec une soudaineté aussi féroce, et il est abandonné tout aussi violemment. Donc c'est pour ça que ce fameux jour 9, ils sont allés sur la tombe du Père Lachaise pour dire ces quatre vérités à Apollinaire.
C'est tout de même Apollinaire qui forge le terme de surréalisme.
Oui, de la même façon que des publicitaires inventent la Xara, la boisson chocolatée Benko ou le Coca-Cola. Je veux bien que ce soit un acte poétique, mais l'important, c'est pas tellement ce qu'il y a écrit sur la bouteille, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, quant à Sandrars, il se méfiait beaucoup du mouvement. Il se méfiait de tous les mouvements, de toute façon. Et Apollinaire, pour lui, a représenté, après la folle histoire d'amitié qu'il a eue avec lui, a représenté tout ce qu'il haïssait, c'est-à-dire la coterie germanopratine et peut-être que j'ai un faible aussi pour ces gens-là qui ne veulent pas rentrer dans ces chapelles. Et j'en veux pour preuve que Sandrars n'a jamais eu de prix littéraire sauf sur son lit de mort, mais ils sont nombreux dans ce cas-là. Jacques Prévert, ça a été la même chose. Tous ces grands hommes de lettres qui dérangent de leur vivant et qu'on adule une fois qu'ils sont disparus.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
Out. typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So
nous sommes ce soir avec Jean-Paul Delfino qui signe aux éditions Le Passage un roman intitulé Les Pêcheurs d'Étoiles, où les deux principaux personnages, Éric Satie et Blaise Cendrars, traversent la nuit parisienne en 1925, notamment sur les traces de Jean Cocteau, désigné d'ailleurs dans le roman comme un petit animal rusé d'un égoïsme forcené. Alors Cocteau apparaît déguisé en arlequin lors d'une folle soirée à la Closerie des Lilas, et à ce moment précis de la nuit, Cendrars et Satie débarquent au milieu de la fête. Et Satie donc retrouve Cocteau, qu'il traite de voleur, puisqu'il lui a volé l'argument d'un balai, Jean-Paul Delfino.
Oui, ce qui était vrai. Et puis Cocteau était un arriviste. Et donc là, j'écorne le mythe de Jean Cocteau, parce qu'on a, je sais pas combien, on a d'écoles en France. L'école Jean Cocteau, c'est comme le boulevard Dupont ou Durand. C'est, donc il est rentré dans l'inconscient collectif. Et je fais même dire à Cendrars, Cocteau du génie, c'est que finalement, le monde est bien mal fait. Parce que ce mec-là, Cocteau, était un antisémite notoire. Il a milité pour les Croix de Feu, pour l'extrême droite. Et surtout, c'était qu'il soit pédant, ça n'était pas très gênant, mais surtout, c'était un arriviste qui avait énormément d'entre-gens, qui savait encore beaucoup mieux, je crois, que Apollinaire. Il savait se servir de ses contacts. Il faisait du lobbying, comme on dit aujourd'hui. Et donc, ça, c'est à l'opposé de quelqu'un comme Cendrars. Alors là, c'est un univers totalement différent pour Satie. C'est, ils sont incompatibles, ces gens-là.
Alors, Cocteau, en vous lisant, Jean-Paul Delfino, a rendu des services à Cendrars. Il lui a fait rencontrer Eugenia Errázuriz, qui est une chilienne fantasque. Un petit mot sur cette femme. Et...
C'est la vérité. C'est une femme qui a existé, qui avait une énorme fortune qu'elle s'est entêtée à disperser en France, parce que c'était une grande amoureuse de la France. C'était une femme mécène, et il y en avait très très peu à l'époque, et qui a fait les bonheurs de Blaise Cendrars, mais aussi de Picasso, de Stravinsky, me semble-t-il. Et c'était une femme qui avait de nombreux appartements dans les beaux quartiers de Paris. Elle avait aussi une propriété dans le Pays Basque, et ça c'est raconté dans le recueil L'Homme foudroyé, je crois, écrit par Blaise Cendrars, où il raconte justement la fois où il s'est arrêté chez madame Eugenia Errázuriz avec Raymond, me semble-t-il, et son chien à bord de sa décapotable. Alors, une décapotable incroyable, parce que c'est une voiture, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est Chagall qui avait fait la carrosserie. Et ça encore, c'est Cendrars, c'est-à-dire qu'il gagne de l'argent, il rachète cette voiture qui est un pur bijou, mais il a oublié que pour rouler il fallait de l'essence, et il n'a pas d'argent pour mettre dans dans le réservoir. C'était un pari, c'était une époque qui devait être merveilleuse. Nous aujourd'hui, on est recroquevillés sur notre compte épargne logement. On se dit que demain tout peut s'arrêter. Oui, mais à l'époque tout pouvait s'arrêter parce que la Grande Guerre était passée, parce que les inégalités sociales étaient encore plus criantes qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'on accordait moins d'importance à la vie. L'essentiel, ça n'était pas de faire comme Jeanne Calment, de vivre très longtemps, c'était de vivre intensément. Et donc c'est vrai que le monde se sépare peut-être en deux factions. Il y a ceux qui préfèrent économiser leur temps et ceux qui préfèrent vivre leur vie. Mais ça, c'est à l'aune de chacun.
Alors je reviens à Cocteau, donc, qui a rendu un certain nombre de services à Blaise Cendrars. Bon, il a soutenu la société Lire et Palette qu'avait créé Cendrars en 1916. Cocteau a collaboré aux éditions de La Sirène que Cendrars avait essayé de mettre sur pied.
À chaque fois, Cocteau a fait passer Cendrars par la fenêtre et lui a piqué sa place. Donc c'est du Cocteau. Il ferme la frange camaraderie et si ça ne marche pas, il disparaît. Mais si ça fonctionne, il prend le créateur, il le fait passer par la fenêtre et il prend sa place.
Alors si Cendrars quand même est embauché par Abel Gance sur le tournage du film J'accuse, c'est tout de même grâce au soutien et à l'appui de Jean Cocteau.
Pour quelle raison ? La raison est très très simple, c'est que Cocteau apprend que Cendrars, qui préparait toujours à minima 30, il annonçait toujours 30 romans à paraître. Il en a écrit beaucoup, mais pas les 30. Et il a annoncé à un moment donné une encyclopédie sur le cinéma qui était encore balbutiant. Et donc quand Cocteau a appris ça et que de plus il n'était pas dans cette fameuse premier grand livre sur le cinéma, il est devenu fou de rage. Et donc ce qu'il a fait, c'est que il a fait ce qu'il savait très bien faire, il a manigancé dans l'ombre la possibilité pour Cendrars, qui avait besoin d'argent, d'être premier assistant réalisateur d'Abel Gance. Et en retour, il lui a bien fait comprendre que s'il voulait le poste, il devait consacrer un chapitre à Jean Cocteau en tant que cinéaste. Donc c'est là où effectivement le personnage peut devenir détestable.
Alors en vous écoutant Jean-Paul Delfino et en lisant aussi Les Pêcheurs d'étoiles, on a le sentiment que Cocteau est un petit salopard. Il l'a été aussi un petit peu bien sous sûr. L'occupation quand même. On a dit qu'il était un imbécile politique, qu'il n'avait pas toujours très bien compris enjeux idéologiques et politiques de la France de l'occupation. Ça vous fait sourire.
Oui, c'est un arriviste. Et encore une fois, je reconnais tout le génie de Cocteau. Puis il n'a pas besoin de ma reconnaissance, loin de là. Il y a des millions de gens, il y aura encore des millions de gens qui aduleront Cocteau pour le travail de créateur. Mais de la même façon que Céline a révolutionné au moins l'art du dialogue de la littérature moderne, Céline était un enfoiré. Il avait des thèses qui étaient nauséabondes et il est difficile, quand on connaît l'histoire personnelle de Céline, d'apprécier Voyage au bout de la nuit ou Le Chevalier des Touches. De la même façon, il vaut mieux ne pas connaître la vie privée de Jean Cocteau, et j'en ai mis très peu de sa vie privée parce que c'est pas un dossier, disons que ce sont des recherches et des recoupements d'informations. J'ai énormément lu pour écrire ce livre, et c'est vrai que c'était un personnage purement détestable, c'était une petite pourriture, mais c'était un génie.
Mais un génie, c'est vrai, à la fois écrivain, poète, dessinateur, cinéaste, illusionniste d'une certaine manière.
Ah oui, c'était...
Et c'est lui qui a mis à la mode le pull au vert jacquard.
Oui, c'est peut-être ce qu'on retiendra le moins, mais... Non, mais c'était quelqu'un qui ne supportait pas la concurrence, c'est-à-dire quand il s'est mis à dessiner, il s'est fâché avec Picasso, parce que Picasso l'accusait de venir pêcher dans son, en tout cas de marcher sur son pré carré. Donc les inimitiés étaient vives. Il avait la langue trempée dans le fiel et le venin. Cocteau, c'était. On a aujourd'hui dans le milieu littéraire français des Cocteau, des Cendrars, il y en a plus beaucoup, mais des Cocteau, oui, parce que la place est bonne une fois qu'on a écrasé les autres. Mais ça, après, encore une fois, chacun le matin se lève, se regarde dans la glace et voit ce qu'il peut penser de lui-même.
Cocteau accuse Éric Satie d'être communiste, alors que Cocteau se revendique d'extrême droite. Dans La Closerie, il le dit, bon, certes, tout le monde boit énormément.
Oui.
Tout le monde boit énormément.
Et se drogue aussi.
Et se drogue, oui.
Oui, mais Satie a été le premier communiste, sauf que... S'il a eu sa carte du parti, s'il a été sans doute le premier artiste engagé dans le mouvement communiste, dans l'international, ça a été aussi quelqu'un qui avait choisi les idées généreuses du parti, parce que les idées communistes, sur le papier, comme toutes les idées, sont généreuses. Après, c'est ce que les hommes en font. Et donc, lui qui n'avait pas d'argent, par exemple, tous les jeudis, parce qu'à l'époque, le mercredi n'était pas férié, c'était le jeudi, il amenait les gamins nécessiteux qui partageaient son quartier à Arcueil-Cachan, il les amenait au jardin public, il leur donnait des cours de solfège, il avait une véritable vie dans la cité. Mais en même temps, c'était aussi une façon d'être anticonformiste que d'être communiste.
Et alors, je lis un extrait de votre roman, Jean-Paul Delfino, c'est page 182, en parlant toujours de Satie. Lorsqu'un camarade lui avait proposé de lui prêter le capital de Marx, il avait poliment refusé, arguant simplement du fait qu'il n'aimait pas les emmerdeurs.
Oui, un peu plus tard, il aurait pu dire « Je lirai le Capital de Marx quand il sera signé par Groucho ». Ça, c'est le genre d'humour que Satie aurait pu avoir. C'était, je crois, le dénominateur commun de ces deux hommes, Sandrard Satie, c'est la liberté. Et rien ni personne ne peut empiéter sur leur liberté, jamais. Et ça, je crois que c'est quand même la marque des hommes libres et des artistes qui sont justement là. Peut-être qu'ils se pêchent même, parce que les artistes sont des étoiles qui veillent sur nous.
Les artistes sont donc des étoiles qui veillent sur nous. Voilà une très jolie formule, Jean-Paul Delfino. On marque néanmoins un nouvel intermède et nous nous retrouvons juste après pour poursuivre notre échange sur votre dernier roman, Les Pêcheurs d'étoiles, disponible en librairie aux éditions Le Passage.
Avec tes rêves d'Argentine, avec tes bouquets de fleurs rouges, je voudrais quitter ma cuisine, quitter Paris, quitter ma blouse, troquer ma robe citadine pour un deux pièces et un chapeau, laisser les mails à Marilyn, couper le gaz et couper l'eau. Tout quitter, toi tu es si loin déjà. Tout quitter pour les montagnes de Salta. Dis quand est-ce que tu t'en vas? Tu t'en vas.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je rappelle donc Les Pêcheurs d'étoiles de Jean-Paul Delfino, c'est aux éditions du Passage. Il y a un chapitre absolument merveilleux, c'est les trois matrones, les trois grosses
c'est
qui
une
tricotent.
Histoire vraie.
Ah oui, alors je me suis demandé,
ah, oui.
Ces trois anciens petits rats de l'opéra, obèses, qui se trouvent en fait au sommet, sous la coupole de l'opéra Garnier, et c'est Satie qui vient chercher sa biquille au milieu.
Oui, en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Bon, les gens auront remarqué à mon accent que je suis du Sud, je suis d'Aix-en-Provence et de Marseille. Et en fait, un jour, un élu à la culture de Marseille, dont je tairai le nom parce que c'est un ami et qui n'exerce plus aujourd'hui, m'a raconté que quand il était arrivé au poste de la deuxième ville de France, donc responsable de la culture, il a fait le tour de toutes les grandes maisons, le théâtre de la Criée, l'opéra. Et donc, quand il est arrivé à l'opéra, il a cru être victime d'une hallucination parce qu'il y avait une salle réservée aux petits rats de l'opéra, sauf que Gaston Defer, qui avait fait du clientélisme avant, n'avait pas signé de contrat déterminé avec les petits rats de l'opéra, mais des contrats à durée indéterminée pour s'assurer de leur vote lors de toutes les municipales. Et donc il y avait des petits rats de l'opéra de 40, 50, 60, jusqu'à 65 ans qui étaient là, évidemment, qui passaient leur temps à tricoter et à faire de la présence, parce que c'est il y a bien longtemps qu'elles n'avaient plus chaussé ni les ballerines ni le tutu. Et donc cette idée est restée dans un coin de ma tête. C'est comme ça, je crois, qu'elles se sont imposées, parce qu'elles sont surréalistes elles aussi, et ça allait très très bien dans les Pêcheurs d'étoiles.
C'est un chapitre absolument merveilleux et qui est particulièrement drôle. Et donc il y a bien un lac sous l'opéra.
Et ça, c'est une réalité objective. Oui, ça c'est. Il y a bien des cartes pour vérifier quelle est la qualité de l'eau sous l'opéra.
Et qu'est-ce que la bonne littérature, selon vous, Jean-Paul Delfino? En tout cas, vous donnez une réponse, là, c'est dans la bouche, je crois, de Sandras, qui dit « Une littérature qui ne soit pas emmerdante, ça n'a l'air de rien, mais la majorité des livres d'aujourd'hui vous tombent des mains. Et les miens, peut-être aussi, remarque bien. On ne peut pas être à la fois juge et parti, n'est-ce pas ?» Vous pensez que c'est encore un peu vrai?
Comme disait ça, pas Sandras, mais Jean-Paul Sartre, on ne peut pas être à la fois à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Donc pour moi, c'est facile de critiquer ce qui se passait dans les années 20. Quant à la littérature contemporaine, j'ai dit ce que j'en pensais. Il y a encore des gens merveilleux qui écrivent des choses fabuleuses et qui sont peut-être pas suffisamment mis en lumière. Quant à une bonne définition de la littérature, je me range derrière ce que dit Sandras, oui, et ce que disait d'ailleurs Georges Brassens, notre phare pour moi dans mon écriture. Il disait « Heureux celui qui se borne à ne pas trop emmerder son voisin ». Et en littérature, c'est pareil. C'est un livre, ça doit être un moment magique. Et si on écrit aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on est tombé sur un livre qui parle à une part de vous-même, qui vous semble même caché, que vous ne montrez pas, que vous étouffez. Mais un auteur, par le miracle d'un petit peu d'encre et de papier, a réussi à faire remonter à la surface. Donc la bonne littérature, pour moi en tout cas, c'est ça, c'est une littérature qui transmet de l'émotion. La littérature, c'est comme le Brésil, ça vous prend, ça vous dévore, ça vous digère et ça vous recrée différent de ce que vous étiez auparavant.
Autre chapitre, alors vraiment magique, c'est l'arrivée de Sandras et de Satie au campement de Gitans, parce que Sandras veut impressionner Cocteau. Le but, c'est de retourner à la closerie des Lilas, de régler son compte à Cocteau. Et Satie et Sandras vont s'y rendre, effectivement, on va dire, avec une petite ménagerie prêtée par les Gitans, dont notamment la girafe. Et elle se souvient de Zarafa, cette girafe qui avait été offerte à la France par je ne sais plus quel royaume du Maroc.
Oui, il me semble, oui. Mais je dirais des bêtises. C'est j'ai le défaut terrible de maîtriser parfaitement le contexte historique de ce que j'écris, mais une fois que le mot fin est marqué, je passe à autre chose. Donc là, il faudrait regarder Zarafa sur Facebook, vous trouverez sur Google, pardon, vous trouverez sans aucun problème. Mais oui, parce que c'est encore une fois, c'est Sandras et Satie avaient une grande amitié instinctive pour les humbles, pour les démunis. Ce sont tous les deux des Don Quichotte, et donc plutôt que de prendre une Rocinante, un cheval boiteux, là ils n'ont rien trouvé de mieux que d'emprunter une girafe à ce camp de Romano qui est à côté de la gare Saint-Lazare, et de parcourir Paris à dos de girafe en se disant, parce qu'ils sont quand même bien bien entamés, ils ont bu beaucoup beaucoup de whisky, beaucoup de vin, et ils se disent que quand on voit le monde de haut, peut-être on a plus de chance de retrouver l'amour, c'est-à-dire Bicky, Suzanne Valadon. et de remettre les choses un peu dans leur, à leur juste niveau, c'est-à-dire retrouver Cocteau et lui mettre des gifles.
Alors, on boit beaucoup dans ce roman. J'ai relevé une comparaison très intéressante. Et puis, l'alcool, c'est comme les histoires d'amour, ça ne réussit pas à tout le monde.
Exactement. Et comme je vous disais, là, je suis passé déjà à autre chose. Je viens de finir un gros pavé de 500 pages sur la bossa nova, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est dans les années 50 au Brésil, c'est sur la musique. Et Vinicius, qui est un grand poète, qui était un grand poète brésilien, disait que pour lui, le whisky était le meilleur ami de l'homme parce que c'était l'équivalent d'un chien en bouteille. Donc des aphorismes comme ça, on peut en trouver beaucoup.
Alors Satie a vraiment eu une cirrhose ?
Oui. Oui, oui, ça, il est... Enfin, après, le diagnostic final, la médecine n'était pas aussi développée que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc souvent, on mettait une cause pour classer un dossier, mais il est mort surtout, je pense, de la misère, hein, avant toute chose. Et il est mort aussi de cet amour qu'il n'a pas pu vivre avec cette Suzanne Baladon qu'il a littéralement fantasmée, parce que c'était une prostituée pocharde, vulgaire, enfin, elle avait rien pour plaire, mais il l'avait érigé au sommet de ses fantasmes, et donc il est mort de misère, il est mort d'amour, puis il est mort aussi peut-être d'un manque de reconnaissance, parce que quand on est artiste, je dis toujours, entre auteur et autiste, il n'y a pas beaucoup de différence, et quand on va dans la vraie vie, c'est ce que je fais aujourd'hui pour la promotion des Pêcheurs d'Étoiles, on rentre dans la vraie vie, c'est-à-dire c'est des vrais gens comme vous qui me parlent, ce sont des vrais lecteurs et plus des courriers que je reçois, et ça fait du bien. Généralement, les gens ne se déplacent pas pour vous insulter, donc ça, c'est quand même très très bien. Mais à l'époque, Satie, oui, lui se faisait insulter, sa musique était vraiment appréciée que d'une toute petite minorité. Il n'arrivait pas à vivre de sa passion, ce qui lui semblait totalement injuste, et je pense qu'il est mort de ça aussi. Il est mort de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir fait partie de la grande tribu de l'humanité.
Merci d'être ce soir avec nous sur les ondes avec notre invité Jean-Paul Delfino pour son roman Les Pêcheurs d'étoiles, disponible aux éditions Le Passage. L'entretien que nous vous proposons aujourd'hui a été enregistré au château du Clos de Vougeot lors de la 9e édition de Livre en Vigne, c'était le 24 septembre dernier. Alors on a parlé des amours de Satie avec sa fameuse Biki, parlons maintenant des amours de Blaise Cendrars. Alors a-t-il vraiment épousé à New York une femme qui s'appelait Fella et à laquelle il a donné 3 enfants. En tout cas, Jean-Paul Delfino, on peut penser aujourd'hui qu'il y a des descendants de Blaise Cendrars.
Oui, il y a Myriam Cendrars notamment qui reste la plus connue, qui a sorti un pavé qui doit faire 1000 pages que je conseille à ceux qui voudraient en savoir plus sur Blaise Cendrars. C'est vraiment un livre d'une intelligence... d'une intelligence rare, mais Cendrars lui-même, de ce que j'ai pu en apprendre, parce que bien évidemment j'ai lu ses œuvres complètes, mais j'ai aussi beaucoup lu les interviews qu'il a pu donner, les conférences qu'il a pu faire, et je pense qu'il était... c'était pas un père. Tout le monde peut faire un enfant, mais tout le monde ne peut pas être obligatoirement un bon père ou une bonne mère. Et Cendrars a été, notamment avec Myriam, qui en parle beaucoup dans son livre, elle a eu une forme d'adoration absolue pour son père, pour l'artiste, et en même temps un manque cruel. Donc les artistes sont, quand ils arrivent à ce niveau de génie, parce que pour moi Cendrars c'est véritablement un génie, ils peuvent être d'un égoïsme terrible. Ils préfèrent se tremper, ce que disait Cendrars, dans la vie immédiate, dans la vie dangereuse, et ils en oublient souvent les gens qui sont à leur côté et qui en souffrent au premier chef, les femmes qu'ils aiment, qu'ils arrêtent d'aimer, et les enfants qu'ils font et qu'ils oublient peut-être d'aimer comme ils l'auraient mérité. Mais encore une fois, je ne suis qu'un littérateur et un admirateur de Cendrars. C'est pas moi qui vais régler les problèmes de Myriam Cendrars avec son défunt père. Doit être déjà suffisamment lourd à gérer d'avoir un génie comme géniteur.
Il y a eu Elena, c'était aussi un amour de jeunesse, mais là c'était à Saint-Pétersbourg.
Oui.
On a l'impression aussi que ces artistes, il leur a manqué beaucoup de choses. Alors comme vous dites, Satie, la reconnaissance, certes le génie était là, mais il leur a manqué l'amour, il leur a manqué des béquilles pour leur permettre d'avancer, d'avoir une vie peut-être un petit peu plus... un peu plus harmonieuse et plus agréable plutôt que la dèche ou la fameuse petite fille aux grands yeux verts, la jolie périphrase aussi pour désigner la misère, la pauvreté.
Oui, mais encore une fois, je crois que c'est aussi le prix de la liberté. Hein. C'est-à-dire que quand vous décidez, quand vous êtes romancier, de ne vivre que de vos droits d'auteur, c'est terrible parce qu'on est, je crois, dernière nouvelle, on était 60 à vivre de nos droits d'auteur sur quelques milliers de littérateurs. Et moi-même, je vis de mes droits d'auteur, mais j'écris aussi des scénarios, des dialogues, parce que sinon, j'arriverai pas à vivre de mes droits d'auteur. Donc, si vous voulez, on est tout le temps, sur le fil. Moi, je ne me plains pas. Personne ne m'a demandé d'écrire. Quant aux auteurs qui se plaignent, je leur dis, rentrez à la sécurité sociale ou dans l'administration, prenez un vrai travail avec une somme qui vous tombe chaque fin de mois. Mais pour ça, il faut accepter ce qui, pour moi, aujourd'hui est inacceptable, c'est-à-dire obéir à des ordres, respecter des horaires. Ça, je suis toujours assez ponctuel dans mes rendez-vous, mais aller travailler pendant 45 ans de ma vie de 8h du matin à 18h le soir, mais pour moi, je vois pas l'intérêt de vivre. Ça n'a strictement aucun intérêt. Vivre, c'est pour être libre. Si c'est pour être un petit soldat, moi qui ai été réformé P4+, c'est-à-dire débile mental profond, je peux pas rentrer dans ce genre de choses. Donc la liberté a un prix, oui. Alors il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, parce qu'il y en a qui ont des côtés peut-être plus Cocteau que d'autres, ou Apollinaire, qui arrivent à s'immiscer dans l'intelligentsia. Ça a pas beaucoup changé, vous savez, les mécènes aujourd'hui font toujours la pluie et le beau temps, et seulement quand on n'a rien à vendre, et surtout pas sa liberté, dans le cas de... Je veux surtout pas me comparer à Cendrars, j'oserais pas, ou de Satie. Je crois qu'en ce qui me concerne, la seule richesse que j'ai ne peut pas s'acheter, c'est ma liberté. Tant que j'ai ça, je pense que ça va, je garderai les pieds sur terre.
Et cela rejoint aussi la dédicace que vous avez placée au début de votre roman, donc ce superbe roman aux éditions du Passage et qui a pour titre, je le redis, Les Pêcheurs d'étoiles, à toutes celles et à tous ceux qui tapis dans la nuit savent encore rêver à leur étoile. Il y a aussi cette très belle citation de Joseph Kessel sur l'amitié. Je vais peut-être vous demander peut-être même de nous la lire, Jean-Paul.
Si vous voulez. Un ami, c'est à la fois nous-mêmes et l'autre, l'autre en qui nous cherchons le meilleur de nous-mêmes, mais également ce qui est meilleur que nous.
Merci Jean-Paul Delfino.
C'est moi qui vous remercie.
Mon émission s'intitule Wagon Livre et l'avant-dernier chapitre, il y a cette fuite. Enfin, j'ai pas trop raconté, mais il y a un voyage en train. En tout cas, c'est un magnifique roman qui m'a bouleversé. Ce parcours de ces deux hommes dans ce Paris nocturne des années 1925, ces histoires complètement magiques. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un superbe roman. Merci, Jean-Paul.
Je vous remercie infiniment. Et j'espère que Wagon Livre va suivre le train sibérien de Blaise Cendrars et continuer sa route bien, bien, bien longtemps.
Merci beaucoup Jean-Paul Delfino. Je rappelle donc Les Pêcheurs d'Étoiles, c'est aux éditions du Passage, actuellement disponible en librairie. Merci Jean-Paul Delfino.
Merci
et puis bon livre en vigne.
Merci infiniment.